Repentez-vous. Matthieu, chapitre 4, verset 17. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible en prêtant attention à un verset dans l'Évangile de Matthieu. Il s'agit de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Voici ce qu'on lit. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Considérons ce verset dans son contexte. Au verset 12 de ce même chapitre, nous apprenons que Jean le Baptiste disparut de la scène parce que le roi Hérode l'avait fait mettre en prison. Cet emprisonnement marquera plus ou moins la fin du ministère de Jean le Baptiste. Comme vous le savez, Hérode ordonnera qu'on le décapite quelque temps plus tard dans sa prison. Suite à l'arrestation de Jean le Baptiste, nous voyons que Jésus commence son propre ministère. C'est comme si le drapeau tombant des mains de Jean, Jésus l'attrapa et prit la relève. À partir de ce moment, sa mission avait débuté. Il est écrit ici en Matthieu 4, 17 que « dès lors, c'est-à-dire après que Jean eut été livré, Jésus commença à prêcher. » Que contenait le message qu'il prêchait? « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà qui est intéressant. Car voyez-vous, Jésus prêchait exactement le même message que Jean le Baptiste. Si vous jetez un coup d'œil à Matthieu chapitre 3, verset 2, Matthieu nous apprend que Jean prêchait dans le désert de Judée en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est exactement ce que Jésus dit quelques versets plus tard à Matthieu chapitre 4, verset 17. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Remarquable, n'est-ce pas? Jean le Baptiste et le Seigneur Jésus prêchaient exactement le même message du salut, à la différence, bien sûr, que Jésus apporta le message avec beaucoup plus de profondeur et d'autorité. Donc, Jésus prêchait la repentance. Repentez-vous. Ce sont les premiers mots que nous entendons de Jésus quand il débuta son ministère dans la Galilée. Mais de quoi doit-on se repentir? Qu'est-ce que Jésus entend par repentance? Essentiellement, la repentance se définit par un changement de mentalité où on se détourne du péché pour se tourner vers la justice. Selon la perspective biblique, la repentance se rapporte à un changement radical de direction dans lequel on se détourne du passé vécu dans le péché pour s'appliquer à vivre maintenant dans la justice. J'aimerais aujourd'hui vous parler du sujet de la justice. Et pour ce faire, je me propose de vous présenter ce sujet du point de vue du salut. La justice est un thème fondamental du christianisme. Et laissez-moi vous dire tout de suite que la justice doit obligatoirement se retrouver dans la vie de tout croyant. S'il n'en est pas ainsi, si la justice ne fait pas partie du caractère du chrétien, celui-là n'a pas le droit de professer une foi en Christ. C'est aussi simple et radical que cela. Nous y reviendrons. Souvenez-vous de cet incident. Quand Jésus et Jean le Baptiste se sont rencontrés pour la première fois, Jésus demanda à Jean la permission de se faire baptiser. Mais Jean voulut s'opposer à cette idée. Il ne se considérait pas digne d'un tel acte. Mais Jésus insista et dit à Matthieu, chapitre 3, verset 15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Ainsi, Jésus disait à Jean, « Accepte de me recevoir dans ton ministère de baptême. » La raison? Car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Le souci qui occupait l'esprit de Jésus concernait son désir d'accomplir toute justice. Et remarquez le caractère complet de cet accomplissement. Jésus ne s'intéressait pas qu'à la justice, mais à toute la justice. Ce souci de la justice faisait tellement partie de la personnalité de Jésus qu'on appelle tout simplement le juste en 1 Jean chapitre 2 verset 1. Il accomplit toute justice en se soumettant au baptême de Jean, le plus grand se soumettant au ministère du plus petit. Il prêcha le message de la justice en invitant les gens à se repentir, en leur demandant de se détourner du péché pour se tourner plutôt vers la justice. Après avoir mentionné ce mot « justice » plusieurs fois, il nous faut maintenant le définir clairement. Comment devons-nous comprendre l'action d'accomplir la justice? Fondamentalement, il s'agit d'obéir à tout ce que Dieu a commandé et de vivre selon les attentes de Dieu à l'égard de son peuple. Ainsi, dans la Bible, la justice pourrait se définir par une relation juste tant avec Dieu qu'avec les hommes. Il s'agit d'un mot très pratique dans les Écritures. Il se rapporte à la vie, à nos relations. La justice, je le répète, a rapport avec une relation juste de l'homme avec Dieu et avec ses semblables. Vous vous souviendrez de la réponse de Jésus lorsqu'un scribe lui demanda ce qu'il pensait être le plus grand commandement dans la loi. Jésus répondit en disant que tous les commandements de la loi pouvaient se résumer en une seule phrase. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ceci constitue aussi l'essence de la justice. La justice, c'est une question de relation, et plus spécifiquement de relation juste. Et la Bible nous dit que cette relation juste se vit dans l'amour que nous exprimons dans nos rapports avec Dieu et les hommes. Nous aimons Dieu de tout notre être, c'est-à-dire avec notre cœur, notre âme et notre pensée. Et nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Nous traitons nos semblables de la même manière que nous le ferions pour nous-mêmes. Le Seigneur Jésus fit la requête auprès de Jean le Baptiste de se faire baptiser afin d'accomplir toute justice, c'est-à-dire de faire tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a commandé. Il s'agit d'une ordonnance de Dieu. Et toute ordonnance divine a une incidence directe sur nos relations avec lui et nos relations avec nos semblables. Chaque commandement de la Bible concerne soit notre relation avec Dieu, soit notre relation avec autrui. On n'a qu'à prendre l'exemple des 10 commandements. Que remarque-t-on sur le plan relationnel? Eh bien, on observe que tous les commandements se rapportent à notre relation avec Dieu et avec notre prochain. On ne peut pas désobéir à la parole de Dieu sans que notre relation avec Dieu et avec nos semblables en souffre. Et la première préoccupation de Jésus, alors qu'il débutait son ministère terrestre, concerne précisément cette question de relation juste. Il faut rétablir une relation juste avec Dieu et avec les hommes. Cet appel de Jésus nous force à faire face à un bouleversement majeur dans notre vie. Le point de départ de ce renversement de situation est la repentance. Jésus prêchait la repentance, car il s'agit du point tournant où une vie menée dans le péché se transforme en une vie se distinguant par la droiture. La repentance fait en sorte qu'il se produit un changement de cap de 180 degrés dans la vie d'un individu. Au lieu de vivre dans le péché, on décide désormais de se tourner vers une vie remplie de justice. Ainsi, Jésus dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que le royaume des cieux? J'aimerais vous présenter la définition que Paul donne au royaume des cieux dans sa lettre aux Romains. Romains, chapitre 14, verset 17, dit ceci. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. » Voilà que nous retrouvons le mot « justice » incorporé dans la définition du royaume de Dieu. Le règne de Dieu est une affaire de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Observons bien ces trois mots. Justice, paix, joie. Ces trois choses forment un trio inséparable. Sans la paix, vous n'aurez pas la justice. Sans la justice, vous n'aurez pas la paix. En fait, sans la justice, vous n'aurez ni la paix ni la joie. Pour accéder à la paix et à la joie dans le Seigneur, il faut obligatoirement marcher sur le chemin de la justice. Si la justice ne fait pas partie de votre vie, alors la paix et la joie ne pourront pas non plus se retrouver en vous. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est d'abord et avant tout une question de justice, puis une question de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Prenez note du rôle de l'Esprit Saint dans tout cela. La présence du Saint-Esprit constitue la clé qui donne accès au royaume de Dieu. Il est celui qui fait de la justice, de la paix et de la joie une réalité de tous les jours dans votre vie. En d'autres mots, le royaume de Dieu devient une entité concrète lorsque le Saint-Esprit habite en vous pour y établir la justice et en conséquence la paix et la joie. Maintenant, toujours à propos du royaume de Dieu et de sa justice. Le Seigneur Jésus fait cette étonnante déclaration en Matthieu chapitre 5, verset 20. Il dit, « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Voilà de quoi nous faire réfléchir. Surpasser la justice des pharisiens? Être plus juste qu'un pharisien? Comment est-ce possible quand on connaît leur ferveur religieuse? Ces chefs religieux suivaient à la lettre toutes les prescriptions de la loi de Dieu. Il n'y avait personne dans toute la nation juive qui pouvait prétendre mettre en pratique les commandements de l'Ancien Testament de façon plus scrupuleuse que les pharisiens. Sur le plan de la religiosité, les pharisiens formaient une classe à part, bien au-dessus de tout le reste de la société. Et pourtant, Jésus nous dit, « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez tout simplement pas entrer dans le royaume de Dieu. » L'apôtre Paul n'a jamais relié ses origines pharisaïques. Même après sa conversion, il affirme qu'il demeure encore un pharisien. Si vous lisez le livre des Actes, vous allez vous rendre compte que vers la fin de ce livre, au chapitre 23, verset 3, Paul dit ouvertement, « Je suis pharisien. » Fils de pharisien. Il ne dit pas « J'étais un pharisien ». Même après être devenu un chrétien, Paul se considère encore comme un pharisien. On ne peut pas faire une telle déclaration sans sous-entendre par le fait même que les doctrines enseignées par les pharisiens soient similaires à celles des chrétiens. En ce qui regarde la loi de Moïse, il n'y avait, à toute fin pratique, aucune différence entre l'enseignement des pharisiens et ce que les chrétiens enseignent. D'ailleurs, Jésus fait la même remarque. En Matthieu, chapitre 23, versets 2 et 3, il dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Faites et observez tout ce que les scribes et les pharisiens vous disent. » En d'autres mots, le Seigneur Jésus disait « Observez ce que les pharisiens vous enseignent de faire. » Encore une fois, une telle déclaration, une déclaration de cette nature, implique nécessairement que Jésus reconnaissait la validité de l'enseignement des pharisiens. Certes, il en a critiqué certains aspects, mais dans l'ensemble, Jésus approuvait leur enseignement. Ce qu'il reprochait le plus aux pharisiens, c'était de ne pas mettre en pratique ce qu'eux-mêmes prêchaient. N'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils parlent d'une manière, mais agissent autrement. Mais peut-on affirmer que les pharisiens soient sauvés? Font-ils partie du royaume des cieux? Non. Si on se fie sur les paroles de Jésus. Si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, alors vous ne serez pas sauvés. Vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi je répète constamment dans nos leçons que faire preuve d'une minutieuse orthodoxie dans votre théologie n'est pas suffisant pour trouver une place dans le royaume des cieux. C'est l'avertissement que Jacques nous donne dans le deuxième épître de sa lettre. Il nous dit « Ne pensez pas que vous allez être sauvés parce que vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Les démons y croient aussi, et ils sont bien loin du salut. » Ne pensez pas que vous allez être sauvés par le fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons y croient aussi. Une foi en Dieu qui ne se manifeste pas par des actes est une foi qui est morte. Une foi qui ne change rien à votre vie et qui reste au niveau des idées ne peut pas vous sauver. On parle d'une foi authentique lorsque cette foi transforme une personne qui devient alors résolument déterminée à vivre dans la droiture et la justice. Alors, comment peut-on être sauvé? Si les pharisiens, malgré tous les efforts qu'ils fournissaient, malgré leur minutieuse religiosité, ne pouvaient pas être sauvés, comment des gens ordinaires comme vous et moi peuvent espérer faire mieux? Se montrer encore plus consciencieux en matière de religion? Là n'est pas la question. Faire preuve d'un plus grand scrupule sur le plan moral ne vous rapprochera pas du royaume des cieux si vous ne comptez que sur votre propre détermination pour y arriver. Alors je répète ma question. Comment peut-on être sauvé? J'aimerais répondre à cette importante et pertinente question en utilisant un autre verset biblique. Nous appelons cet autre verset un verset parallèle. Le Seigneur Jésus dit en Matthieu chapitre 5, verset 20, « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, et remarquez bien la deuxième partie, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Dans l'enseignement de Jésus, il y a un autre verset qui, adressé à un pharisien, se termine aussi de la même manière. C'est-à-dire avec la phrase « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». Je me demande si vous savez de quel verset il s'agit. Lisons Jean chapitre 3, verset 5. Voici ce que Jésus dit. « Je te le dis, toi, Nicodème, pharisien, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Voyez-vous où ces deux versets se rejoignent? Mettons-les côte à côte et observons ce qui arrive. La deuxième partie de chacun des versets fait la même affirmation. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, en Matthieu 5:20, a exactement la même signification que il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, en Jean 3:5. Quant à la première partie, les phrases ne sont évidemment pas identiques, mais on peut toutefois les mettre en parallèle. Ceci signifie qu'on établit un parallèle entre la phrase « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens » et celle qui dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit ». Nous commençons maintenant à y voir un peu plus clair. Voici ce que Jésus veut nous enseigner. La seule et unique façon d'avoir une justice qui dépasse celle des pharisiens est d'être né de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui a la tâche de nous transformer. Nous touchons ici à une idée maîtresse du christianisme. Le christianisme ne se résume pas à une question de croire aux bonnes doctrines. Il faut croire, certes, mais croire d'une manière qui permette à l'Esprit de Dieu d'entrer dans votre vie pour vous transformer en une nouvelle personne. C'est ce que la Bible appelle être né de nouveau. Et à quoi ressemble cette nouvelle personne? Cette personne est une personne juste. Paul nous en parle en Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24. Voici ce qu'on peut lire dans sa lettre. « Être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Voilà comment Paul décrit le nouvel homme. Cette personne est créée selon la pensée de Dieu, c'est-à-dire une personne dont la vie se caractérise par une vie juste et sainte. C'est à cela que le chrétien est appelé à devenir. Être un chrétien, c'est permettre à l'Esprit de Dieu de pénétrer dans les profondeurs de votre cœur afin qu'il vous transforme en un homme nouveau, un homme qui mène une vie juste. J'aimerais maintenant vous montrer un autre verset concernant cette question de justice. Il s'agit d'un verset bien connu, souvent utilisé comme argument pour dire à un jeune chrétien qu'il ne doit pas prendre en mariage une personne qui n'a pas la foi en Christ. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, se dit comme suit. « Ne formez pas avec des incroyants un attelage disparate. » Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Ne vous associez pas avec les incroyants, car on ne peut pas unir deux mondes qui s'opposent. Ici, Paul parle du monde des incroyants en utilisant les mots « iniquité » et « ténèbres ». Mais pour ce qui est des chrétiens, il emploie des termes « justice » et « lumière ». Le chrétien se caractérise à la justice et à la lumière qu'on retrouve en lui. Il n'est pas difficile de comprendre l'idée que le chrétien soit une lumière. Vous vous souviendrez que le Seigneur Jésus en avait déjà parlé dans son sermon sur la montagne quand il a dit « Vous êtes la lumière du monde. » Les chrétiens sont la lumière du monde. à cette notion de lumière, Paul ajoute maintenant l'idée de la justice. En tant que chrétien, vous êtes lumière et justice. Vous êtes la lumière du monde et vous êtes la justice dans le monde. Tout comme vous êtes la lumière du monde, Dieu appelle le chrétien à être la justice dans le monde. Prenons quelques instants pour réfléchir à cette observation. Vous rendez-vous compte de ce que nous sommes en train d'affirmer? Nous, les protestants, nous sommes habitués à parler de la justice comme étant quelque chose qui a été imputé aux croyants. La doctrine de l'imputation de la justice de Christ est très importante pour comprendre l'œuvre du salut. Mais il faut savoir tenir compte d'un autre aspect de cette justice par rapport au salut. C'est ce que Paul semble nous indiquer ici. Lorsqu'il affirme que le chrétien est lumière et justice, il ne parle pas d'une justice qui a été imputée par Dieu. Le chrétien est juste, ou plutôt justice. Il ne s'agit pas d'une justice dans son sens légal, mais d'une expérience qui change le caractère du croyant. Cette justice est bien imparfaite, on en convient. Mais cela n'enlève en rien au fait qu'elle soit tout à fait réelle et tangible dans la vie du croyant. Et Paul répète la même chose en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Là, on lit ceci. « Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour servir de sacrifice. Il a été traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Remarquez à nouveau ce que Paul dit à propos de cette justice. Ce n'est pas uniquement une question d'être déclaré juste. On n'a qu'à relire le verset. C'est une question pour le chrétien de devenir justice de Dieu. En d'autres mots, cela revient à dire que le croyant est appelé à devenir l'expression vivante de la justice de Dieu. Nous devenons ainsi l'incarnation de la justice de Dieu dans le monde. Le chrétien authentique est justice parce que l'Esprit Saint a touché sa vie au point de le transformer en une nouvelle personne, une créature nouvelle. Partout où il se rend, il manifeste la justice de Dieu dans son milieu. Et prenez bien note de ceci. Il ne s'agit pas de ma justice. On parle de la justice de Dieu. Je ne fais pas de moi-même une nouvelle créature. La nouvelle naissance relève de la grâce de Dieu. Nous sommes régénérés par la puissance de Dieu. Si la Bible affirme que nous sommes la lumière du monde, c'est dans le sens que nous reflétons la lumière de Dieu au travers de nos vies, Dieu étant la source de cette lumière. De la même façon, nous sommes justice, non pas parce que nous sommes par nature justes. Lorsque Paul fait l'affirmation que le chrétien est justice, il veut dire que celui-ci reflète la justice de Dieu dans le monde. Le salut se voit chez la personne, faisant l'expérience de la puissance divine qui le fait devenir justice de Dieu. Si la justice de Dieu constitue vraiment une réalité dans votre vie, alors vous ne vous associerez jamais avec un incroyant dans le mariage, même si cela signifie que vous devez accepter le célibat pour le reste de vos jours. Pour certains, c'est le prix à payer lorsqu'on prend la justice de Dieu au sérieux.
Car en effet, quel rapport d'union peut-il y avoir entre la justice et l'impiété? Il est impossible de concilier la justice et l'iniquité. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Si vous êtes vraiment la manifestation de la justice de Dieu, alors vous choisirez de ne jamais vous associer avec un incroyant, que ce soit dans une union conjugale ou dans n'importe quelle autre association impliquant une liaison étroite. En résumé, on peut affirmer que la justice trouve sa pleine expression dans la personne de Jésus. Être juste, c'est être comme Jésus, celui-là qu'on appelle le juste dans la Bible. L'homme nouveau en nous grandit spirituellement en justice à l'image de notre Seigneur Jésus. Cette croissance s'effectue non pas parce que la nature humaine est si bonne, mais grâce à l'intervention de Dieu qui, dans son plan du salut, veut voir chacun de ses enfants parvenir à la maturité. Christ est mort pour nous en s'identifiant au péché afin que nous devenions justice de Dieu en Jésus. Et nous voulons coopérer avec le Saint-Esprit dans ce processus de transformation spirituelle. Nous voulons louer Dieu pour un si grand salut.